Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, Léorech Chayim Tovim et Shanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude du Sidour de Tfila et de la Tfila Atzma. Nous sommes arrivés au Ashré. Le Ashré n'est pas un psaume. En vérité, ce psaume-là, le psaume 145, Kouf Memhe, c'est le psaume qui commence par Tehillah et David. Les deux premiers versets, Ashre Yoshve Vetecha, Od Yalucha Sela. Et le deuxième, Ashre Am Shikachalo, Ashre Am Shadonai Eloah, sont deux versets glanés ça et là. Le premier est celui du psaume qui précède. Et Ashre Am, et un autre qui est celui du psaume que nous disons le psaume 84 que nous disons à Mincha. Donc il s'agit d'associer ces deux versets-là, on les a ajoutés à Tehillah et David, alors que dans la Gemara, nos maîtres disent « Kol ha'omer Tehillah et David bechol yom » tout celui qui dit Tehillah et David tous les jours, alors il aura droit au monde futur. Alors, que signifie Ashré? Ashré, ça signifie heureux, Yoshvé Betecha, ceux qui sont assis dans ta maison. Oh, ils loueront encore, ils multiplieront les louanges sans cesse. C'est là, ça veut dire, ça a le sens d'éternité. Cette maison-là, il s'agit du troisième temple que nous souhaitons de nos voeux. Il ratzon que nous puissions assister à sa reconstruction et au rétablissement du service des Kohanim. Ce verset est introduit ici pour appliquer ce que nos maîtres ont dit dans leurs enseignements dans la Mishnah. Hasidim Arishonim, les anciens, les gens pieux d'antan, s'installaient à la synagogue une heure avant la prière. Ces hommes consacraient une heure à la méditation avant de prier. C'est quoi la méditation avant de prier? C'est quand on rentre à la synagogue, on doit se consacrer entièrement à la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, servir Dieu, se traduit par la prière. Une prière faite avec volonté, intention, concentration, et rassemblement des énergies de l'individu. Toutes les énergies de l'individu sont canalisées vers une seule chose, et pas la dispersion. Alors pour arriver à cela, il faut se détacher des soucis de la rue, de notre quotidien. Il faut arriver à nettoyer notre esprit de tout ce qui pourrait nous le perturber. Donc il y a un temps de méditation, de concentration, de préparation. C'est ce que faisaient les gens pieux d'antan. Donc ils disent « Ashré Yoshvé Betecha ». Ils viennent, ils s'installent à la synagogue. Ils s'asseyent dans la maison de Dieu. Ils s'asseyent, mais c'est pas juste s'asseoir. Ils contemplent, ils essayent de se concentrer, de se détacher des soucis du quotidien et se concentrer vers ce qu'ils vont entreprendre, la prière, le service, Avodah Shebalev. Ces hommes, donc, consacrés un temps, une heure, Sha'a, avant de prier, afin de diriger leur cœur vers Akadosh Baruch Hu. Le but de cette méditation, à nouveau, je répète, est de purifier le cœur, les détacher des plaisirs de ce monde, des soucis de ce monde, afin d'entrer entièrement, de manière entière, complète, au service d'Hachem, en contemplant la grandeur de Dieu, sa gloire, face à la fragilité de l'homme. Il se remplissait de crainte et d'amour d'Hachem. Comme dit le Rambam, au deuxième chapitre des fondamentaux, deuxième chapitre de Yad HaHazaka, leur prière pouvait être alors pure et sincère. Cette préparation que faisaient les hommes pieux est maintenant instituée pour tous. Et accompli par la lecture des louanges. La lecture des louanges, c'est n'est autre que cette préparation-là. Donc il faut la faire avec concentration, intention, et soumission, et avec sincérité, ferveur, enthousiasme. ardeur. Et c'est ça ce qu'il dit ici. Ashré, aham, shekachalo, heureux le peuple qui jouit d'un tel sort, dont c'est le sort. Heureux le peuple qui reconnaît Akadosh Baruch Hu comme son Dieu. Ashré, aham, shekadonai, Elohav. Ce verset vient encourager ceux qui donnent de leur temps pour le service d'Hachem. Ils ne se contentent pas de faire la prière. Ils méditent une heure durant sur la grandeur de Dieu. Dans ce verset, il s'agit de l'ensemble du peuple, alors que précédemment, il s'agissait des hommes pieux, des hassidim. Le mot « heureux » est toujours au pluriel. Et on ne dit pas « hacher », on dit « hacheré ». Il s'agit d'atteindre la plénitude dans ce monde et dans le monde futur. La réussite de ce peuple est due au fait que Hachem est son Dieu. C'est ça la réussite. Donc il y a ici ce concept-là d'être heureux, d'être satisfait de faire ce que l'on fait. Faire ce que l'on fait avec joie, ferveur, entrain, concentration, rassembler les énergies. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est comme ça qu'on obtient, qu'on arrive à atteindre l'apaisement, la joie de vivre de l'instant présent du service de Dieu. Le Zohar souligne, heureux le peuple qui a reçu la Torah par l'intermédiaire de Moshe. Hashem, Shekacha, Lo. Kacha, ça a valeur numérique de 345. C'est la valeur numérique du nom de Moshe. Heureux le peuple qui a reçu la terre d'Israël en héritage. Comme nous disent nos maîtres, celui qui réside sur la terre d'Israël, ses fautes sont pardonnées. Le psaume Tehillah de David est une louange extraordinaire. Il commence et se conclut par le mot Tehillah, hymne. Il est au sommet des louanges. Il en est la couronne, le mot Tehillah, qui vient se placer sur la tête du roi. Quand on lit les louanges, quand on élève ça, la louange au nom de Dieu, c'est comme si qu'à chaque mot que l'on prononce, on fabrique un diamant, une pierre précieuse, qui vient se placer sur la couronne d'Akadosh Baruch Hu. C'est un privilège de pouvoir les réciter tous les jours, de pouvoir réciter avec ferveur et kavana et intention sérieuse, sincère, et de comprendre ce que nous disons. On y découvre la conduite dans ce hacheré, on y découvre la conduite particulière, extraordinaire du monde et des êtres vivants. Notre émouna s'en retrouvera renforcée et consolidée. La particularité de ces six derniers psaumes du livre de Tehillim est qu'ils ne sont que louanges pour le miracle de la vie. Le rassemblement des exilés, la reconstruction du temple, alors que tous les précédents ne parlaient que des souffrances de David et celles de l'exil et des délivrances passées. Il y a trois points à souligner dans ce psaume. Il est construit selon l'ordre des lettres, des 22 lettres de l'alphabet. Akadosh Baruch Hu a employé les 22 lettres de l'alphabet pour créer le monde, pour donner la vie, toute la vie, nous est octroyé par l'intermédiaire des 22 lettres de l'alphabet. Il y est mentionné la qualité de ce psaume, comme dit l'Agmara, c'est qu'il y a la subsistance physique et la nourriture spirituelle. Il est donc c'est Aleph Bet Gimel Dalet. Le Aleph Bet, c'est la subsistance spirituelle. Et il y a un verset qui qualifie, qui octroie la subsistance matérielle. Poteach et yadecha o masbia lecholcha ratzon. Il ne contient aucune requête. Il n'y a rien, aucune demande dans ce psaume. Nous avons déjà souligné la notion de bonté chez le Créateur, qui ne dépend pas du besoin des créatures, mais de sa propre volonté infinie d'octroyer le bien. Définir l'amour d'Hachem et sa bonté par le besoin des êtres vivants, c'est lui mettre une limite. Alors voyons, les 22 lettres de l'alphabet sont les outils de la création. Elles expriment la pensée première qui a paru quand a paru Kad ala bir'ute le mivra alma. Quand a paru la volonté de créer. Elle est l'infinie bonté qui précède tout, le Ratson, comme dit le Zohar. David, de par son inspiration, loue le Créateur à la racine de cette bonté, qui est la raison des raisons, Ilata ilov sibbot sibbot, la cause première de toute la création, le point de départ, qui est tout et qui contient tout. C'est le Kutso Sheliut. Le monde dans lequel nous vivons et toutes les difficultés qu'il contient, en particulier celle de la subsistance et les besoins de l'homme, c'est le souci essentiel des hommes, n'est pas le monde que Dieu a créé. Il est ce que les hommes en ont fait. L'expression attribuée à Noé qui dit « Celui qui donne la vie, man di yaiv haye, yaiv mezone. » Celui qui donne la vie, donne la subsistance. Cette expression-là, en vérité, elle n'apparaît pas dans la Gemara. Elle n'existe pas sous cette forme. Mais il y a une expression qui ressemble dans la Gemara d'Antaranit. Alors on l'amène, cette Gemara-là. À l'époque de Rav Shmuel Bar Nahmani, il y a eu une famine et une épidémie. Donc il y avait deux plaies. La famine, il n'y avait pas quoi manger, et deuxièmement, les gens mouraient de maladie. Alors on a demandé, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier pour la disparition des deux fléaux, ce n'est pas possible. On ne prie pas pour demander deux choses à la fois. Alors ils se sont dit, allons prier pour la disparition de l'épidémie. Et nous supporterons la famine. Ce qui est le plus grave, c'est que les gens y meurent par épidémie. Donc la famine, c'est plus supportable. Car il y avait beaucoup de décès. Alors ils sont venus devant Rav Shmuel Bar Nahmani. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit non, pas du tout. Nous allons prier pour la disparition. Prions. Alors ils lui ont dit, prions pour la disparition de la famine. Lui, il a dit non. Il a dit, il faut prier pour la parnassa. Si Akadosh Baruch Hu octroie par sa miséricorde la satiété, la parnassa, le shefa, alors il va l'octroyer à ceux qui sont vivants. Il octroie pour les êtres vivants, comme il est dit. Potea et yadecha, ou masbiya, lechol chayratzon. Ici, l'expression est dite dans l'autre sens. Celui qui accorde la subsistance, le fait pour les vivants. Après, priori, la réponse de Shmuel, de Rav Shmuel Bar Nahmani, arrive à la conclusion inverse. Il fallait prier pour que cesse l'épidémie, alors on aurait dit celui qui donne la vie donne la subsistance. Il semble, donc ça veut dire de cette Gemara-là, on a exactement le contraire de Mand Yaïf Haye, Yaïf Maisonné. Ici, il y a marqué Mand Yaïf Maisonné, Yaïf Haye. Il semble qu'il y ait une différence entre la formulation de la prière et celle de la louange. Le principe énoncé par Rav Shmuel Bar Nahmani est valable pour formuler sa prière. Mais l'autre expression n'est ni une prière ni une demande. Elle est juste une immense louange faite à celui qui accorde la vie. Et notre psaume 145, Tehillat David, il est la source de cette Gemara-là, de cet enseignement. Dans notre Gemara, dans notre Passouk, les psukim de Tehillat et David soulignent, man daïf haye yaïf maisonné. Il peut pas y avoir de vie sans maisonnote. La preuve, c'est que le alef bet, il est conjugué avec potea et yadecha. La vie spirituelle et la vie matérielle. La vie et la vie matérielle. C'est-à-dire que la parnassa. La Gemara Brachot rapporte l'enseignement de Rabbi Lazar Baravina. Celui qui récite Tehillat David tous les jours, il est digne du monde futur. Alors, quelle en est la raison? Si tu dis que ce psaume est spécial parce qu'il suit l'ordre des Aleph-Bet Gimel, 22 lettres de la fin, alors il était préférable de dire le sang Kufiutet. Là-bas, il y a marqué 8 versets pour chacun des Aleph-Bet. Alors, c'est mieux. Alors, il dit, la Gemara, elle dit que non, dans celui-là, il y a quelque chose de mieux. La Gemara propose alors plutôt de réciter la, alors si c'est le passo qui dit, tu ouvres tes mains, podea et alecha masbia alechol chayratzon. Alors la Gemara dit, pourquoi tu dis récites pas le halel agadol? Où il donne le pain à toutes, il y a marqué là-bas, qui donne le pain à toutes les créatures. Et la Gemara de conclure que le psaume 145 est préférable car il contient les deux particularités. Il y a deux choses là-bas. Alef bet et podea et alecha. Le grand de Vilna, il souligne qu'il y a un autre psaume aussi où il y a les deux. C'est le 111. Alléluia. Odea Adonai Bechol Evav, Besod de Sharim Ve'Aida. Ce psaume-là, il y a marqué Alevet aussi. Et aussi, il y a marqué Teref Natan Lirea Viskor Le'olam Berito. Il accorde la nourriture à ceux qui le craignent. Alors, mais là-bas, c'est différent. Pourquoi? Parce que dans ce psaume, n'est pas retenu. Pourquoi? Parce que la subsistance uniquement à ceux qui le craignent. Alors que dans le nôtre, Potea et Tiadecha ou Masbia, l'Echol Haïrat, on n'est pas marqué s'il mérite ou il mérite pas. Pas il le craint pas. Toutes les êtres vivants, ils auront leur nourriture parce qu'Akadosh Baruch Hu leur octroie sans qu'ils aient de mérite. Ça, c'est la raison pour laquelle le Hachré a été choisi. Comme nous l'avons déjà mentionné, le Hachré nous permet d'atteindre la source de la vie, la raison première de l'existence. Par les 22 lettres de l'alphabet, Hachem donne la vie. Les sources dont elles émanent s'ouvrent de Aleph à Tav, sans limite ni retenue. Quand nous arrivons au verset « Poteach et Yadecha », la subsistance, alors nous en saisissons alors toute la dimension, l'infinie volonté de donner la vie. C'est le sens de cette expression. Man de yaïf haye yaïf maisonné. Celui qui donne la vie. Ce sont les 22 lettres de l'alphabet. C'est la vie spirituelle qui donne la subsistance au corps. Alors dans ce alevet, il y a aussi la subsistance du corps. Le nom de Dieu est alors glorifié de manière parfaite, en harmonie parfaite. Il n'y a pas de déconnexion, de détachement entre la spiritualité et la matérialité. Rabbi Hanan, maintenant dans ce psaume, il n'y a pas la lettre Noun, nous savons. Alors Rabbi Hanan demande pourquoi la lettre Noun n'apparaît pas dans ce Hachré. C'est que cette lettre-là, le Noun, fait allusion à quelque chose de négatif, à la chute. Comme il est dit, Nafla, l'autosifkum, betula d'Israël. Tu es tombé, Nafla, Nefila. Le Nous fait allusion au fait de tomber. Qui est-ce qui est tombé? C'est la fille d'Israël, elle est tombée. Et si elle tombe, elle se relèvera pas. Alors elle est tombée, elle ne se relèvera plus, comme dit Amos, le prophète Amos dans sa prophétie. Les maîtres en Israël, ils ont expliqué différemment, nous dit le Talmud. Il dit, ils vont mettre une ponctuation. Nafla! L'autosif, virgule. Tu es tombé, tu ne tomberas plus. Koum, betulat Israël. Lève-toi, jeune fille d'Israël. Rav Nachman Bar Yitzhak dit, bien que selon cette explication, il n'y a pas d'allusion à la chute, à une chute qui serait définitive, David est revenu et les a soutenus. Hazar David ve Samchan. Où il est le Noun? Il est le Noun dans le Samer. Somer Adonai lechol anoflim. Hachem vient soutenir tous ceux qui tombent. Vezokev lekol akivuhim. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Dans le verset d'Amos, il est dit que la fille, elle tombe, qu'elle se relève pour ne plus tomber. Donc David a fait plus. Pourquoi? Puisque la Gemara dit qu'il est revenu et les a soutenus. Que signifie « les a soutenus »,« les revenus, il les a soutenus » Et de qui parle-t-on quand la Gemara dit « Samchan », il les a collés, il leur a fait une assise. Après que David ait vu par inspiration divine la prophétie de Amos, une chute définitive, et la lecture des rabbins d'Israël qui disent, qui ont mis une virgule à « tu ne tomberas plus ». Donc on lit « tu ne tomberas plus ». Il n'a pas voulu qu'elle tombe du tout. Alors il a soutenu, il est venu, il les a soutenus. Le chassid Lutzato Alav HaShalom dans Adir Bamaram explique que le concept de l'exil ne contient pas la notion de délivrance. Dans l'exil même, il n'y a pas de fin. Ce qui est la difficulté supplémentaire dans l'exil, c'est qu'on ne voit, on n'en voit pas la fin. Et qu'il ne contient pas dans l'exil la fin de l'exil. Comme il est dit, les secrets du cœur ne sont pas dévoilés à la bouche. Comme si cela a été pour toujours, Chas v'Shalom. Mashigiliti, les libilogiditi, les poumi. Donc ce qui a été dévoilé au cœur ne peut pas se dévoiler par la bouche. Dans la vision des quatre empires, Yaakov ne voit pas le quatrième descendre. Il voit monter, il ne voit pas descendre. Donc c'est le sens même de ça, c'est l'intervention extérieure qui va mettre un terme à l'exil. C'est pour cette raison que David a exclu un verset contenant la, commençant par la lettre Noun, car la chute est définitive. Il a introduit à sa place la lumière du redressement. Comment? Par le Samer. C'est le soutien qui nous permet de traverser l'exil. L'exil qui paraît infini, définitif. Rabbi Yohanan fait allusion à cette lumière de la délivrance introduite par David en mentionnant le Hachré, qui est le temps consacré à la méditation comme préambule indispensable à la louange, un instant d'éternité. Nos médecins disent qu'Hachem fait précéder dans ce monde le remède à la maladie. Hachem soutient tous ceux qui tombent. Ça veut dire qu'ils sont en train de tomber. Mais la fille d'Israël ne touche pas le sol. Elle est retenue avant d'arriver au sol. Parce que si elle tombe, elle arrive au sol, elle ne peut plus se relever. Donc il l'a soutenue. Ça veut dire qu'elle tombe, elle est en train de tomber, mais elle ne tombe pas. C'est ça le mot Sam-Kham. Comment on écrit Sam-Kham? Samer mem chaf nun. Le mot samer mem chaf fait allusion au samer écrit entier. Et le nun, c'est le nun. Donc le nun, il est collé au samer. On le voit, ce mot associe le samer et le nun. Ce qui signifie qu'à la source des choses, la chute contient le soutien. Ce n'est qu'une chute apparente. Elle n'est pas réelle puisqu'elle n'atteint jamais le sol. Et que le soutien précède la chute. Le mot, la forme du nun ressemble à celle du serpent. D'ailleurs, dans le Perek Shira, cette louange, Somer Hachem, est attribuée au serpent. Alors, y aurait-il une réparation possible? Nos maîtres disent, tous se guérissent et s'en sortent sauf lui, sauf le serpent. Alors, il y a deux serpents. Il y a un autre serpent qui est du côté de la sainteté. C'est Ishaï, le père de David, qui porte ce nom. Hachem a voulu lui faire de lui Mashiach. Ishaï était injuste. C'est-à-dire qu'il est ça dans l'âme. Nos maîtres ne lui trouvent aucune faute durant sa vie. Et il n'est mort que de la morsure du serpent, lui dit la Gemara dans Baba Batra, Shabbat 55. De même, le roi Hezkiyahou porte ce nom. Car de la racine du serpent, Mishoresh Ishaï, sortira un saraf. C'est Savav, c'est un serpent venimeux. C'est la souka de David qui tombe, la royauté de David, à laquelle il fait un soutien. Car quand le serpent du mal disparaîtra, viendra le temps du serpent du sainteté, de la Kdusha. Remarquant que le nun fermé a trois côtés comme la souka. Quand Rav Sheshat se redressait, il le faisait comme un serpent en prononçant le nom. Il dit Baruch Ata Hashem, quand on dit Hashem, on se redresse dans la Hamida. Parce que Hashem, il redresse tous ceux qui sont encourbés. Somer Hashem, Vezokef l'école à Kifoufim. Notons que le mot Mashiach, c'est la valeur numérique de Nahash, 358. Le Shulchan Aruch dit que le verset Poteach et Yadecha doit être dit avec Kavana. C'est-à-dire en comprenant au moins les mots et le sens de la phrase. Sinon, il faudra le relire. Selon Rabbeinu Ha'ari, alav shalom, il faut penser aux lettres qui forment les noms saints, qui sont dans, comme c'est mentionné dans les Sidourim. Pensez à relier l'ensemble des mondes pour que les flux parviennent jusqu'au monde le plus bas et qu'ils s'y répandent, ces flux-là, de vie, pour que la vie soit possible. Ce verset est différent du précédent car il est dit qu'Hachem, de par sa volonté, satisfait aux besoins de tous les êtres vivants selon leurs propres souhaits, leur propre volonté. La volonté d'Hachem est de faire la volonté des créatures. Dans le verset précédent, « Aine kol elecha isaberu » tous les yeux des êtres vivants ils se dirigent vers toi. « Ve'ata noten la'em et tochlam be'aito » et toi tu leur donnes leur subsistance en leur temps. La nourriture arrive aux hommes avec limites et restrictions, à des moments précis. Quand ils invoquent la miséricorde, parce qu'il y a une question. Pourquoi on dit que le pasouk de la parnassa c'est poter et yadecha? Pourquoi on dit pas en ekol elecha isaberu ve'atan otenaim tochlam be'aito? Toi, les yeux, les gens, ils invoquent, ils supplient Dieu, ils se dirigent vers Dieu et ils invoquent. Et toi, Dieu, tu leur donnes leur soumissance en sortant. Parce qu'il faut, là-bas, il faut attendre qu'ils demandent. Mais à Kadosh Baruch Hu, dans Poté Haïtadecha, Dieu, il ouvre ses mains, il ouvre sa main et octroie à la vie, même s'il ne le demande pas. Nous allons, ça c'est les deux premiers versets, nous avons essayé ici d'expliquer en général le Hachré, et nous allons voir immédiatement le détail, dans le cours prochain, le détail de chacun des versets. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.